On reviendra en détail avec Philippe Motteville un petit peu plus tard sur ces barricades. Et comme on le disait, une est démantelée, deux autres apparaissent dans le décor. Et on découvre finalement que les extrémistes de gauche, ceux qui défendent des causes autochtones ou environnementales, on parle d'extrémistes, là, les gens qui sont anti-gazoducs, sont de plus en plus dans le collimateur des services de renseignement des corps policiers canadiens parce qu'on craint des dérives violentes. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Fabrice, tu as découvert donc plusieurs rapports du Centre intégré d'évaluation du terrorisme, des documents obtenus, et ça c'est rare que ça fonctionne, là, oui, par la loi d'accès à l'information.
Avec un peu de retard et caviardé, évidemment.
Quand même.
Ben, c'est quoi ce fameux centre, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, le Centre intégré d'évaluation du terrorisme? C'est un organisme fédéral, Paul, qui a ses bureaux au siège du SRS à Ottawa et qui est chargé d'évaluer en temps réel la menace terroriste au Canada et d'informer le gouvernement. Donc c'est eux, entre autres, qui disent si la menace est élevée, très élevée, imminente, etc. Donc les documents que j'ai consultés ont été rédigés il y a plusieurs mois en 2019, en prévision notamment d'événements spéciaux au Canada, des sommets diplomatiques, des rencontres politiques, la fête du Canada, des manifestations sportives comme la Formule 1, par exemple. Et c'est des rapports qui portent exclusivement sur la menace terroriste, hein, donc pas l'opposition politique. Évidemment, ils sont classifiés secrets pour la plupart. Donc les groupes autochtones eux-mêmes, je vais préciser, sont pas ciblés dans ces documents, mais plutôt, comme vous le disiez au départ, les activistes d'extrême gauche qui prôneraient la violence pour les soutenir. Alors, ce qu'on craint, et c'est une source de préoccupation vraiment qui est palpable, c'est des actes de sabotage, des attaques, du vandalisme en sol canadien qui seraient menés, précisons évidemment, par une minorité d'activistes radicaux. Et ça apparaît particulièrement dans un rapport de 4 pages, côté secret, rédigé mi-juin 2019, juste avant une cérémonie qui s'appelle le Crépuscule canadien de la GRC à Ottawa. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est un événement public. Donc, les auteurs rappellent d'abord que les rassemblements publics sont des cibles, je les cite, faciles et intéressantes pour les terroristes. Alors là, on mentionne évidemment les attentats au concert d'Ariana Grande à Manchester, au marathon de Boston, le 14 juillet 2016 à Nice. Puis le rapport se penche sur les attaques qui visent les personnels en uniforme en Occident. Et là, je cite, « Ils sont souvent pris pour cible par des groupes anarchistes et de gauche de tout acabit, en plus des extrémistes religieux de l'État islamique. » Ça fait quand même un sacré mélange. Et on signale d'ailleurs 2 opérations de vandalisme en février et mai 2019 contre un poste de la GRC en Ontario et des véhicules de police qui étaient stationnés devant. Et c'est des actes qui ont été revendiqués en représailles à l'époque sur un site internet contre l'empiètement de la GRC sur les terres autochtones, en particulier sur le fameux territoire Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, mais aussi contre la construction du gazoduc Coastal GasLink, qui est à l'origine de toute la crise qu'on vit en ce moment. Et on rappelle aussi que ces groupes d'extrême-gauche, qui sont décrits comme variés, ont déjà commis des attaques matérielles, notamment des attentats à la bombe incendiaire contre l'industrie pétro-gazière, des symboles, ce qu'ils appellent du capitalisme, mais causent peu ou pas de blessures aux personnes. Et ça, c'est une différence notoire, évidemment, avec les extrémistes de droite ou les djihadistes. Mais ça démontre, Paul, que ces tensions qui n'en finissent plus, finalement, entre autochtones, opposants, gazoducs, en particulier au projet Coastal GasLink, et les risques de dérapage auxquels ça peut conduire sont bien connus, finalement, de l'appareil sécuritaire et du renseignement au Canada. Et il y a le même constat dans un autre document qui est rédigé avant une réunion des ministres de la Défense d'Amérique du Nord à Québec en juin dernier. Là encore, on écrit que cette rencontre de haut niveau peut être la cible potentielle pour des djihadistes, les extrémistes de droite ou ceux de gauche, motivés, dit-on, par des causes sociales, environnementale ou anti-gouvernementale. Puis on a des précédents au Québec, Paul, il y a quelques années. On se souviendra de ce qui avait été qualifié d'attentat par la GRC, tous revendiqués par la mouvance anarchiste, sabotage d'un pylône d'Hydro-Québec en 2004, incendie du véhicule du VP du lobby de l'industrie pétrolière, il me semble que c'était Carole Montreuil, en 2006, et enfin un engin incendiaire lancé contre un centre de recrutement de l'armée à Trois-Rivières en 2010. Et il y a quelques jours, il y a eu un appel au sabotage des voies ferrées au Canada pour, je cite, « perturber l'économie et l'État » en solidarité avec les Wet'suwet'en et leur lutte, qui a été publiée sur un site internet anarchiste. J'en ai une copie ici, là. Et ça explique en détail comment saboter les aiguillages, comment saboter les rails. Puis on donne des conseils pour pas laisser de traces d'ADN ou d'empreintes digitales. Et on se félicite aussi.
Mais dans ce cas-là, je le vois, là, ton document, c'est vraiment un manuel d'instruction, un mode d'emploi.
On explique comment faire.
On ne le fera pas en ondes, mais non. Quand même, c'est clair.
Ah, c'est clair. Moi, je l'ai lu, c'est clair. Puis sur une autre page de site web, on se félicite aussi de l'incendie récent d'un équipement sur une voie du Seine à Montréal. Évidemment, on va rassurer les usagers. Il y a des systèmes de sécurité qui font en sorte que, quand il y a interruption du courant, ça stoppe la circulation des trains.
Mais ce que je remarque, évidemment, on parle ici de groupuscules, mais est-ce qu'on a affaire à des individus ou à des gens relativement organisés?
Ben, ils ont l'air de dire qu'effectivement, c'est un peu des deux. C'est un peu comme l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on évidemment, ce qui est très spécial, ce qui fait sursauter, c'est que dans ces mêmes documents, on commence par parler de la menace djihadiste. On parle aussi de plus en plus de la menace d'extrême droite, sans s'en est parlé ici. Et puis on bifurque sur ces groupes, mais ils ont l'air de dire que c'est des groupes un peu disséminés, quoi. Il n'y a pas d'organisation en tant que telle. Mais on note une escalade de la violence potentielle. Puis ça prouve bien une chose, Paul, c'est que plus on laisse pourrir ce genre de conflit, comme toujours, plus on laisse le champ libre aux radicaux, quelle que soit la mouvance, quoi. Alors okay. Évidemment, j'ai eu des réactions.
Oui.
Le CN, eux, ils ont refusé, le Canada national a refusé de commenter, mais ils invitent, eux, la population à signaler toute intrusion sur les voies. Alors j'ai contacté surtout le SRS. Moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'intéresse à ces opposants, parce qu'on est dans le domaine politique. Puis là, on rentre en zone sensible parce que l'expression d'opposition politique est heureusement protégée par la charte au Canada. Et la radicalisation, on va le rappeler, n'est pas un crime au Canada. Mais ça fait en sorte que le SRS et les forces de police doivent faire attention et agir en fonction de ces paramètres pour éviter des abus. Moi, ce que le porte-parole du SRS m'a dit, c'est que effectivement, ils ne s'intéressent pas aux activités licites de protestation et les manifestations de désaccord, mais qui sont chargés d'enquêter sur les activités qui pourraient constituer une menace pour la sécurité du Canada. Et ça comprend tout groupe, toute personne qui compte avoir recours à la violence dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux, idéologique, c'est la définition du terrorisme dans le code criminel. Puis évidemment, ils veulent pas discuter plus en détail de ce que je lis dans les rapports.
Oui, la ligne est mince entre des gens qui sont des radicaux. Et tu as le droit d'être un radical, c'est pas interdit. Le problème, c'est quand tu poses des gestes violents, des gestes radicaux, mais comment la police dit on n'enquête pas sur vous tant et aussi longtemps que vous êtes, disons, vous opérez légalement.
Tout à fait. Puis une manifestation peut dégénérer dans la violence, mais ça peut être juste, on va dire, un peu de brassage entre. Et ça, ça rentre pas dans le champ du SRS, évidemment. Eux, c'est dès qu'on atteint la sécurité du Canada, qu'il y a des menaces à la sécurité du Canada pour des raisons comme, effectivement, c'est dans la loi, pour des raisons politiques, religieuses ou idéologiques. Alors évidemment, j'ai aussi contacté l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. C'était, Paul, comme vous imaginez, la stupéfaction. On n'était pas au courant du contenu de ces rapports, mais encore moins de l'existence d'un appel à saboter des voies ferrées au Québec en soutien à la cause des Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique. Puis le chef Picard a vraiment tenu à dénoncer tout ça. Il a dit « Nous ne nous associons pas à ce genre de groupe. Comme tous les chefs qui sont exprimés jusqu'à maintenant, nous promouvons une approche pacifique et dans le calme. »
Mais il devait bien se douter quand même qu'il y avait certains éléments, peut-être pas de communauté précise, mais des sympathisants radicaux.
On l'a vu à Saint-Lambert, il y avait des appels à venir bloquer, puis il y avait très peu selon les observateurs autochtones. Ouais. Mais de là, effectivement, on a le droit de protester encore une fois au Canada, mais faire des sabotages ou des attaques, non, c'est pas... Ça rentre pas dans le cadre de la protestation normale.
Merci Fabrice de Pierrebourg, 7h36.